Je vais présenter très très rapidement chacun de nos quatre intervenants. C'est un peu artificiel puisqu'on s'est vu toute la matinée. Donc je présente très très rapidement donc, William Sewell, qui est professeur émérite de sciences politiques et d'histoire à l'Université de Chicago, qui travaille aujourd'hui sur les relations entre le capitalisme au XVIIIe siècle et les origines culturelles de la Révolution française, peut-être aussi dans une amplitude temporelle plus grande, je ne sais pas. Mais William Sewell a consacré une partie de sa carrière à travailler sur les révolutions de 1789, 1830, 1848 en France. Il en a résulté un grand nombre de publications sous forme d'ouvrages et d'articles, mais dont l'une des plus célèbres, je crois y compris en France, c'est Logic of History, qui est un recueil de textes à tonalité à la fois empirique et théorique. Sur les logiques de l'histoire, comme son titre l'indique, et qui fournit en particulier une théorisation des événements historiques comme transformation des structures, ainsi qu'une articulation originale des outils de l'histoire et des sciences sociales. Timothy Tackett, qui est ici, qui est professeur d'histoire à l'Université de Californie et qui était un spécialiste de la Révolution française, qui a d'abord travaillé sur l'histoire religieuse de la France au XVIIIe siècle sous différents aspects, notamment la constitution civile du clergé en 1791. Et en France, il est tout particulièrement connu pour deux ouvrages qui ont été quasiment immédiatement traduits. Par la volonté du peuple, comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, le terme « devenu révolutionnaire » ayant glissé en français dans le sous-titre, alors que c'est le titre même de l'ouvrage américain « Becoming a Revolutionary ». Et qui est paru en 1996 à Princeton University Press, et en France, chez Albin Michel en 1997. Et puis Le Roi s'enfuit, sur Varenne et l'origine de la terreur, qui est paru en 2004 en France. Et un autre ouvrage est en préparation, il n'est même pas en préparation, puisqu'il est en train de sortir, The Coming of the Terror in the French Revolution. Et donc les travaux de Timothy Tackett nous intéressent aussi, et ils ont été reçus aussi de cette façon-là en France, parce qu'ils analysent assez finement le devenir révolutionnaire des députés de 1789, avec une attention sur les temporalités très fines du processus révolutionnaire et aussi de ses points d'inflexion. Haïm Burstein, qui est ici, est professeur d'histoire à l'Université de Milan, lui aussi spécialiste de la Révolution française. Plusieurs ouvrages aussi ont été traduits en France, parmi lesquels le maître ouvrage, la thèse d'État, énorme livre qui s'appelle « Une révolution à l'œuvre », Le Faubourg Saint-Marcel, 1789-1794, qui est paru aux éditions Chambanon, je crois, en 2005, mais aussi l'invention du sans-culotte Regard sur le Paris révolutionnaire, paru la même année, et plus récemment, Révolutionnaire, pour une anthropologie politique de la Révolution française, où, entre autres dimensions, donc, il propose la notion de protagonisme qui nous a occupés ce matin dans le débat que nous avons eu, où il rend compte de l'investissement d'individus ordinaires dans le processus révolutionnaire, les formes et les contingences de cet investissement, la façon dont il affecte le cours des événements et dont il est affecté par le cours des événements, ainsi que la gestion publique par les autorités révolutionnaires de cet engagement spontané. C'est donc une approche par le bas, inséparable d'une étude fine de la conjoncture révolutionnaire et qui rejoint par certains aspects un grand nombre des travaux des autres intervenants ici. Et puis Yvan Ermakov, qui est ici et qui est professeur de sociologie à l'Université de Wisconsin-Madison et directeur d'études à l'EHESS. Ses travaux actuels portent sur la sociologie historique de la persécution d'État et la micro-histoire de la Shoah, et qui ont déjà donné lieu à publication, notamment dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Pour une micro-histoire de la Shoah ». Il a aussi écrit un article extrêmement intéressant sur la question de la contingence historique dans la revue Tracé, en 2013, on trouve au cœur de l'ensemble de ces travaux une attention aux modalités et aux logiques des alignements entre acteurs dans des contextes de crise sont marqués par une grande incertitude mutuelle, et où une décision critique, c'est une notion centrale dans le travail d'Ivor Ermakov, doit être prise, notion de décision critique qui est centrale, qui se définit comme une décision risquée pour les acteurs qui doivent la prendre, une décision qui est lestée d'un enjeu collectif que les acteurs ne peuvent pas ignorer, et qui, du fait des conséquences, rend les choix individuels interdépendants, et enfin une décision qui se distingue par le fait qu'elle est sans retour. Et cette notion structure l'ouvrage fondamental publié par Ivan Ermakov en 2008 chez Duke University Press, Ruling Oneself Out, A Theory of Collective Abdications, dont je ne sais pas si une traduction est en cours, mais dont je l'espère fortement pour le public français, même s'il a déjà eu beaucoup de recensions en France, puisque malgré tout nous arrivons à lire en anglais un tout petit peu ici en France. Voilà, je laisse la parole pour le débat. Donc en fait, l'idée de ce débat, c'est que à partir de ce qui a été dit ce matin, on pose des questions un petit peu plus précises et en laissant la parole à nos intervenants de façon plus spontanée, tout le monde n'étant pas obligé de répondre à chacune des questions, on n'en aura pas le temps. Et n'hésitez pas à vous répondre entre vous sans passer par notre médiation, bien évidemment.
Première question pour ouvrir ce débat, une question, on va dire, de mise en contexte avant de rentrer dans des problèmes beaucoup plus pratiques de recherche sur ces situations de crise. On lit dans plusieurs articles que les situations d'incertitude deviennent un objet de plus en plus privilégié pour l'histoire et les sciences sociales. Alors ça se traduit notamment par le fait que de plus en plus d'historiens ou de sociologues travaillent sur les moments de crise, sur les révolutions, sur les moments d'hésitation, et de moins en moins sur la question des régularités, des mouvements de longue durée, avec parfois des études d'acteurs pour lesquels on avait des catégories un petit peu préétablies. Alors, tous, à votre manière, vous illustrez très bien ce tournant-là, puisque Timothy Tackett étudie les processus par lesquels on devient révolutionnaire. Anne Burstein montre tout le rôle du protagonisme dans des dynamiques de crise qui ne sont pas données à l'avance. Ivan Ermakov a travaillé sur les phénomènes d'abdication collective en apparence irrationnelle qui ont lieu en France et en Allemagne dans les grandes assemblées dans les années 30. Et puis William Soule a mis au point ce qu'il appelle la sociologie événementielle qui insiste précisément sur le rôle de l'enchâssement des temporalités pour comprendre autrement les mécanismes sociaux. Alors la question est la suivante, à votre avis, à quoi tient cet intérêt nouveau des sciences sociales pour les situations d'incertitude, qui est aussi ce pourquoi on est là aujourd'hui, la question qu'on aborde aujourd'hui est le fruit de ce contexte-là. Alors pourquoi cet intérêt nouveau pour les sciences sociales, alors que pendant très longtemps c'est plutôt la question des régularités qui motivait son enquête?
Pourquoi aujourd'hui plus d'intérêt aux incertitudes? Je crois que à partir de mon domaine de recherche, c'est une époque où, justement, du point de vue historiographique, les certitudes sont tombées et des systèmes qui avaient été plus ou moins opératoires pendant des décennies pour comprendre un passé complexe comme la Révolution française n'avaient plus l'air de fonctionner. Les systèmes idéologiques compacts ne rendent plus service, donc le problème d'interroger la réalité d'une façon plus problématique. Pour ce qui est de la Révolution française, qui devient improvisément intéressante de ce point de vue, et non pas des points de vue par les biais sous lesquels elle était intéressante autrefois, c'est que quelque chose d'importants se mettent en branle. Alors imaginez-vous au sujet des certitudes, l'ancien régime. L'ancien régime, c'est un monde d'incertitudes, pas plus que la Révolution. C'est le moment, si vous pensez à Paris, le Paris par exemple d'Arlette Farge ou de Daniel Roche, c'est un Paris où la vie est fragile, donc l'incertitude est profonde sur la survie même. Mais qu'est-ce qui se passe sous la Révolution? C'est que d'autres incertitudes s'ajoutent. Et en même temps, les rares certitudes de la vie d'Ancien Régime, une vie coutumière qui se poursuivait assez égale à soi-même pendant très longtemps, s'effritent. Donc ces certitudes fondées sur un code coutumier, une sociabilité coutumière, laissent la place à l'incertitude. Et le problème est de recréer des certitudes. Alors c'est voilà un peu, je crois, le problème, parce que cette refondation de certitude, ça se fait à l'intérieur d'une suite de crises qui se poursuivent. Un système de crises enchaîne et qui peut donner un paradigme des réactions positives ou négatives au temps des crises, dictées par un traumatisme. D'où, et j'en reste là, par exemple, la possibilité, les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à des nouveaux talents pour greffer leur talent, justement, dans une situation que, apparemment, les gens n'ont plus l'habitude de maîtriser, et créer des nouveaux critères pour maîtriser des situations instables.
J'aimerais dire qu'il me semble que les moments d'incertitude, des histoires de crise et de révolution ont toujours intéressé les chercheurs. Je ne vois pas que c'est quelque chose de nouveau, vraiment. Certes, après le bicentenaire de 1989, on avait un peu marre, peut-être, de révolution, en France au moins, et on n'en a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup publié. C'était difficile d'ailleurs de publier des livres sur les révolutions pendant quelques années. Mais il me semble que depuis toujours, au moins la révolution française, et je suppose d'autres révolutions aussi, on s'est passionné pour ça, au moins au niveau de nos étudiants. Et si on faisait le calcul, si on faisait le comptage de livres publiés sur les révolutions, je croyais qu'on trouvait quelque chose de plus ou moins plat pendant toute cette époque. Et puis une autre observation, je ne sais pas si c'est exactement la même question, mais à propos des crises, il y avait, maintenant je parle du point de vue de l'histoire, il y avait beaucoup de crises politiques au XVIIIe siècle. Il y a un livre intéressant par Peter Campbell sur, j'oublie le titre, mais il s'intéresse aux crises de Louis XV, sur l'époque de Louis XV. Et il dit qu'il y avait pas mal, c'était dans une certaine mesure, plusieurs autres crises au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, ressemblaient à ce qui se passait en 1787-89. Mais, et donc la bonne question, la grande question, c'est pourquoi la crise à la fin du siècle a amené à une véritable révolution. Donc, à mon avis, il y a plusieurs façons à aborder cette question.
Je vais prendre le point de vue, en fait, des analystes en sociologie, donc de ceux qui ont travaillé à partir d'un point de vue sociologique sur les phénomènes révolutionnaires ou les crises. Je pense que la démarche dominante jusqu'à une période récente, c'était de partir d'hypothèses globalisantes, de partir de modèles globalisants qui reposaient sur des présupposés concernant les comportements collectifs. Donc les modèles sociologiques d'explication des révolutions étaient des modèles plus ou moins structuralistes, où de fait on supposait que les groupes agissaient en étant déterminés par des facteurs macro-sociologiques. L'implication de ce type d'analyse, c'est que les individus, les groupes, nécessairement se comportent de façon homogène. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine façon des causalités externes, extérieures aux individus et aux groupes, qui s'appliquent aux groupes et qui les déterminent à agir d'une certaine façon. Donc le modèle de causalité, c'est un modèle de causalité très linéaire. Si là je parle en termes abstraits, c'est-à-dire qu'on a des facteurs causaux qui s'appliquent aux groupes et qui les déterminent dans leur ensemble. Si vous lisez Scotchpole, si vous lisez même Tilly, toute l'analyse de la frustration relative, le modèle de causalité est le même. d'un modèle de causalité dont on peut qualifier de linéaire. Là, je reprends la terminologie d'Andy Abbott, qui a déconstruit ce type de causalité. Donc ça a été un modèle dominant en sociologie comparatiste, je dirais, jusqu'au début des années 1990. Maintenant, deux choses se sont passées. D'une part, les gens qui font du travail empirique de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'ils vont voir sur pièce, qu'ils vont essayer d'analyser les documents produits par les acteurs eux-mêmes, se sont aperçus qu'en fait, il y avait un décalage entre ces hypothèses globalisantes et explicatives et ce qu'ils pouvaient observer d'un point de vue empirique. Et comme toujours, le décalage produit des anomalies, c'est-à-dire produit des observations qui ne peuvent pas être expliquées par les modèles. Et lorsque les décalages deviennent trop grands, lorsque les anomalies s'accumulent, au bout d'un moment, le modèle lui-même devient problématique. Donc, la première raison pour laquelle on s'est mis à explorer l'expérience des acteurs est due à ce décalage entre empirie et modèle explicatif. La seconde raison, et Bill a joué un rôle énorme, c'est que, d'une certaine façon, Bill a fourni une carte, du moins a fourni des instruments d'analyse pour aussi susciter un intérêt renouvelé au phénomène de temporalité, au phénomène de l'expérience collective. Donc, d'une certaine manière, il y a une confluence entre un épuisement des modèles explicatifs et un appel à faire attention à la complexité proprement temporelle des phénomènes sociaux. Et la confluence de ces deux mouvements, d'une certaine façon, a amené une génération d'analystes et de chercheurs à aborder les phénomènes révolutionnaires, les phénomènes de crise, d'une autre façon, en faisant beaucoup plus attention à l'expérience des acteurs. Lorsqu'on fait attention à l'expérience des acteurs, à un moment ou à un autre, on s'aperçoit que les acteurs ne sont pas nécessairement déterminés à partir selon des facteurs causaux qui sont externes à eux. Et on s'aperçoit que pour un grand nombre d'acteurs, pas pour tous, c'est là où je qualifierais, pour un grand nombre d'acteurs, il y a de l'incertitude. Donc l'incertitude, en quelque sorte, n'est pas un a priori analytique, c'est une conséquence d'une certaine façon de faire de la recherche qui entend faire attention, entend prendre au sérieux l'expérience collective des acteurs dans des situations de désagrégation institutionnelle, dans des situations où les repères institutionnels sont remis en cause. Maintenant, la nuance que j'apporterais, c'est qu'il ne faut pas réifier l'incertitude et en faire en quelque sorte une clé de lecture universalisante. Pourquoi ? Les situations de crise ne sont pas des situations d'incertitude généralisées. Les situations de crise sont des situations où, pour certains groupes sociaux, pour certains groupes politiques, il y a une opportunité à agir. Et ces groupes ont un script de comportement, ont un diagnostic, ont une définition de la situation qui les incite à intervenir. Ces groupes sont protagonistes. C'est-à-dire, ils interviennent, ils sont partie prenante, ils ont un agenda politique et ils agissent en fonction de cet agenda politique. Pour ces groupes-là, il n'y a pas d'incertitude. Les bolcheviks, en automne 1917, savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et pour eux, il n'y a pas d'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'ils lisent la situation en vertu d'un diagnostic politique. Pour d'autres groupes, en revanche, la situation est extrêmement déstabilisante. Ils perdent leurs repères, ils ne savent plus comment s'orienter, et ils sont dans une situation où il faut redéfinir la situation, il faut la lire, il faut une grille de lecture qui a été mise à bas, en quelque sorte. Et donc, ces groupes-là sont confrontés à une situation d'incertitude. Le 9 Thermidor, pour moi, est un cas emblématique, parce qu'on a affaire à des groupes qui, juste à ce moment-là, le 9 Thermidor, tel que l'analyse Imbostine, et j'invite les auditeurs à lire le livre du début jusqu'à la fin, parce que le chapitre sur le 9 Thermidor est à la fin, et d'une certaine façon, conclut de façon remarquable l'ensemble de l'enquête. Le 9 Thermidor est absolument représentatif, parce qu'on a, voilà des groupes qui ont agi de façon relativement claire dans, autour des journées révolutionnaires précédentes. Mais le 9 Thermidor, ils se retrouvent pris au dépourvu. Ils sont mis face à un défi politique qui, pour lequel ils n'ont pas de réponse opératoire. Et donc ce sont là des groupes qui ont affaire à de l'incertitude. Donc voilà un cas où on a, de façon diachronique, des groupes qui, à des moments différents, soit se comportent selon un script qui a été préordonné, qui a été utilisé précédemment, donc il y a une pratique révolutionnaire qui s'est mise en place, qui a été partagée, et là, il n'y a pas d'incertitude. Mais les mêmes groupes, les mêmes sections se retrouvent à d'autres moments complètement pris au dépourvu et doivent faire face à l'incertitude. Donc là encore, je voudrais simplement dire que l'incertitude, c'est un concept empirique, mais c'est un concept empirique à partir du moment où on s'intéresse à l'expérience collective des acteurs. Et ce n'est pas du tout un concept qui va vous fournir la clé de lecture et un concept opératoire pour désagréger une dynamique collective. Non, certains groupes ne font pas l'expérience de l'incertitude.
I'll respond in English. I actually, here I think I agree with Tim. I don't think that this is generally the case in the United States in the social sciences. I agree with what Yvonne has said about sociology. There has been a kind of loosening up of a very structuralist model in sociology, and people are becoming interested in problems of uncertainty, of contingency of various kinds. But in fact, it seems to me that historians for over the very long run, in fact, have been interested always in problems of uncertainty. In fact, if anything, historians have been too interested in problems of uncertainty. That is, there's a kind of assumption among historians that there are no general causes. Everything is a consequence of particular events, and what we have to do is go back and find and retrace those events and try to figure out why things happened in that particular way. So there's a kind of particularism that's built into the academic field of history. So I guess basically, I don't see that in the U.S. at least in history. I don't see any increase in interest in contingency. If anything, it's maybe going in the other direction. That is, I think the what seems to be rising now is an interest in history over the very long run, from you know the beginnings from the beginnings of humans on the earth to the present, and trying to look at continuities that go back to our ancestors, first ancestors in Africa. I also see an increased interest in questions of economic history, even some sense that maybe economic factors are very important in explaining the general course of history. Also, a big rise in interest in problems that have to do with environmental change. So my sense is that contingency is not something that's that is. Historians have always studied contingency; they continue to. But I don't see anything in the present of work in history, at least, that particularly emphasizes this problematic.
Donc. Il répond que ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis, en tout cas, que les gens sont de plus en plus intéressés par les questions contingentes ou particulièrement par cette, par ces questions-là. En fait, les historiens sont toujours intéressés par des questions d'incertitude, et même peut-être trop, si on regarde en général l'emphase qu'ils ont mis sur, qui semblerait être quelque chose que les historiens font en général, c'est-à-dire des causes qui sont toujours presque particulières. C'est un peu quelque chose qui est inscrit dans la façon de faire l'histoire même. Donc, aux États-Unis, cette tendance générale vers l'intérêt pour l'incertitude semble, en fait, ça semblerait même aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, il y a de plus en plus d'intérêt pour la très longue durée, même la très très longue durée, c'est-à-dire en commençant avec les origines de l'homme et les premiers ancêtres en Afrique. Il y a aussi un intérêt pour l'histoire économique, en reconnaissance que les facteurs économiques sont de plus en plus importants. Et puis, troisièmement, il y a aussi de plus en plus d'intérêt pour des questions de changement, des changements de climat dans l'environnement. Donc, la contingence, d'abord, n'est pas forcément quelque chose de nouveau, et d'autant plus qu'il n'y a rien dans l'historiographie à présent qui semblerait mettre davantage d'emphase sur ces questions que d'autres.
Alors, on va commencer par une question de mise en contexte, avant de passer des problèmes plus pratiques de recherche sur ces situations de crise. On lit parfois que les situations d'incertitude sont des objets de plus en plus privilégiés par l'histoire et les sciences sociales. Cela se traduirait par le fait que de plus en plus d'historiens et de sociologues travaillent sur ces situations de crise, de révolution, d'hésitation, et de moins en moins sur les questions de régularité, les mouvements de longue durée, avec des études centrées sur des acteurs et parfois appuyées sur des catégories préétablies. Alors tous, à votre manière, vous illustrez ce tournant, puisque en effet, Timothy Tackett travaille sur les processus par lesquels advient la Révolution française. Aim Burstein montre, lui, le rôle du protagonisme dans les dynamiques de crise révolutionnaire. Ivan Ermakov aborde les abdications collectives en France et en Allemagne dans le contexte des années 30. Et William Soul, enfin, a mis au point ce qu'il appelle la sociologie événementielle, qui s'intéresse au rôle de l'enchâssement des temporalités pour comprendre les phénomènes sociaux. Alors, d'où cette première question. Peut-on dire qu'il existe un intérêt nouveau des sciences sociales pour les situations d'incertitude? Et si oui, à quoi cet intérêt tient-il exactement?
I'd be willing to just give one example of my own work. I wrote an article in the 1990s on the La Prise de la Bastille and et les origines du concept de la Révolution. J'ai le sens que ça est arrivé pour la première fois dans le monde, le sens moderne de la Révolution dans cette circonstance. Bon, I'm going to switch into English. did I choose this topic because I wanted to explain the origins of the idea of the revolution? No. In fact, I was asked to give a paper at a conference, and I had been wanting to write something about the event and a way of theorizing the event. So I said, yes, I'll write something on the event. I spent a few weeks working on a very theoretical paper on the event, and I realized I was going nowhere. This was going to be a catastrophe. I had about 2 weeks before the conference, and I decided I have to look carefully at some situation that I know something about and try to develop a theory out of the situation. So I thought, okay, I'll read Godchaud's book on the Prise de la Bastille, and I'll also read Georges Lefebvre on La Grand-Père, and I'll decide which one will work better for me. So in the end, I decided I'll go for the, I'll write a paper on La Prise de la Bastille. So I knew that it was an important event. Everybody knows it's an important event. What was important about it was uncertain to me at the time that I began. So having read this book and nothing else except what I knew before, I came to the tentative conclusion, which I was not tentative about in the talk that I gave, that in fact the modern conception of the revolution actually came out of these events surrounding the taking of the Bastille. I then, the following summer, did the real research, looking at particularly at speeches at the at a run of the journal, what was it called, Les Révolutions de Paris, the descriptions of what happened over those over the week or so or 2 weeks following the taking of the Bastille. And I read the Archives Parlementaires for this period. And it was actually in doing that detailed research that I found the set of surprising decisions, new locutions, new use of words, stretching of concepts, and so on, that eventually gave rise to the invention of the revolution in our modern sense. So in this case, I went into it without any idea of what I was going to be explaining, and I discovered the explanation in the course of that's a case where definitely there was not a teleology, because I didn't know what I was looking for as the end. Whether that can be generalized, I don't know. But it means it's possible. Sorry, Steve.
Non, c'est...
Pas de problème.
Alors, donc, il propose un exemple de ses propres travaux, et en prenant en particulier d'un article qu'il a écrit dans les années 90 sur la prise de la Bastille et les origines du concept même de la Révolution. Ce que veut dire révolution dans le sens moderne. Et dans cet article, il propose que c'est le moment, la semaine ou les 10 jours qui ont suivi le 14 juillet 1789, ont marqué la naissance de la notion de révolution comme on le comprend dans la période contemporaine. Alors, il pose la question, est-ce qu'il a choisi ce sujet parce que il voulait absolument expliquer les origines de la notion du mot révolution? Non. En fait, c'était tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, on lui a demandé de présenter un papier à un colloque et il cherchait une façon de parler de la question de l'événement. Il a passé quelques semaines pour essayer d'écrire quelque chose sur l'événement. Il lui restait 2 semaines, et c'était une catastrophe. Il n'avait rien, il ne savait pas ce qu'il allait dire, il voyait bien qu'il allait dans le mur. Donc, il a décidé de chercher une situation, quelque chose sur lequel il connaissait quelque chose, et essayer de théoriser à partir d'un cas plus précis. Donc, il a décidé de lire le livre de Gauchot sur la Bastille, de Lefebvre sur la Grand-Peur, et il a décidé de travailler sur la Bastille. Alors, une fois qu'il avait lu ce livre, il dit qu'il ne connaissait pas grand-chose en dehors de ce qu'il avait déjà lu sur la Bastille, bien sûr, et ce livre. Il est arrivé à une conclusion très, très hâtive, dont il n'était pas tout à fait certain, que cette notion de révolution est sortie de ces événements. Alors, de cet événement. Après, c'était l'été d'après qu'il a fait la recherche, il a regardé des discours dans la série de pamphlets « La Révolution de Paris », et 2 semaines, dans les 2 semaines qui suivaient la prise de la Bastille, et après il a regardé des archives parlementaires, et c'était en faisant cette recherche beaucoup plus détaillée, historique, qu'il a trouvé qu'ils étaient en train de travailler ces concepts et les élargir en quelque sorte, et qu'éventuellement, ou finalement, au fur et à mesure de ces 10 jours qui ont suivi, il a cette notion de cette façon de concevoir le mot de la révolution a apparu. Et dans ce sens, il avait très peu une idée de ce qu'il cherchait réellement, parce qu'il a commencé avec en travaillant sur la question de l'événement en général, et petit à petit, il est arrivé à cette conclusion, alors qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il cherchait à la fin.
Dans une certaine mesure, mon expérience en écrivant un livre sur les origines de la Révolution était assez semblable à ce que Bill Sewell vient de décrire. Certes, je crois, et j'ai cru à l'époque et je crois toujours que l'historien doit toujours aller marcher entre les hypothèses et les observations. C'est un peu la méthode scientifique finalement. Et je crois qu'en fait, sauf Bill, je crois qu'on commence presque toujours avec certaines idées. Dans mon cas, pour les origines de la Révolution, ce n'est pas que je n'avais pas de théorie, j'en avais trop. J'avais 200 ans de théorie, pourquoi la Révolution. Alors, j'ai fait quelques décisions pour aborder ce sujet vaste et très difficile. D'abord, j'ai décidé, décision stratégique, que j'allais voir ce que pensaient les contemporains eux-mêmes de ce qui se passait. Je voulais voir dans la correspondance contemporaine, parfois dans les journaux, dans les intimes d'individus, qu'est-ce qui se passait dans leur tête à cette époque-là. Et de cette façon, confronter tout cet univers de théorie sur les origines. Donc, je voulais pas dire pourquoi la révolution, mais pourquoi les gens, les individus ont fait des révolutions, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté. Et j'avais beaucoup de surprises quand j'ai fait ça. Par exemple, parce que j'avais quelques séries qui commençaient déjà avant la Révolution, j'ai découvert que la plupart des gens, au moins ceux qui ont laissé de la correspondance, n'avaient aucune idée de ce qui se passait au début de l'Assemblée des Notables en 1787. Ils n'avaient aucune idée qu'il y avait une crise fiscale, une crise économique en France. Ils se posaient des questions, il y avait beaucoup de rumeurs, de théories, mais c'était seulement après, quelques mois après, qu'ils commençaient à comprendre qu'il y avait vraiment une crise sérieuse dans le royaume de France. Et on peut, de cette façon, on peut suivre la transformation entre les Français qui étaient plutôt des observateurs à l'extérieur de tout ce qui se passait dans l'État, aux gens qui voulaient, qui avaient de plus en plus leurs avis propres, et même qui voulaient participer et même écrire des brochures. C'était un processus de mobilisation, si on veut, de l'opinion et de réalisation, quelque chose d'extraordinaire se passait. Et j'ai suivi ces mêmes individus jusqu'à pendant toute la Révolution, mais en 89, au mois de mai, juillet, il y avait beaucoup d'incertitudes. On ne savait pas ce qui allait se passer. Est-ce qu'on voyait une révolution? Mais pas vraiment. On espérait avoir des réformes. On regardait le roi, on croyait que c'était le roi qui était dans une certaine mesure le plus révolutionnaire. C'est lui qui a proposé toutes ces assemblées provinciales et a demandé des cahiers et qui a convoqué l'Assemblée nationale. C'était le roi qui voulait tout ça. L'idée de la souveraineté populaire arrivait très lentement, aussi dans une sorte de processus. Petit à petit, on commençait à se demander ce qui se passait. On lisait beaucoup de brochures. Il y avait des conversations virtuelles entre les gens. Et quelque chose d'extraordinaire commençait à se passer de cette façon. Donc, j'ai découvert, au moins, à mon avis, que la révolution, dans l'expérience des contemporains, c'était quelque chose d'extraordinaire et totalement imprévu. Et donc, c'est de cette façon j'aborde la question. Bien que j'ai commencé avec des hypothèses, bien sûr, c'était surtout en me mettant dans les sources que j'ai commencé d'arriver à des conclusions.
Je voudrais revenir à ta dernière question, Boris, en quoi tu nous demandes quelles sont les contre-mesures à prendre contre la résurgence du téléologisme. La réponse qu'on est, on peut pas s'assurer au Lloyd's là-dessus, parce que finalement, c'est une tentation qui continue à ressurgir. Et notamment, je pense au champ de la Révolution française. C'est-à-dire, on a trop fait, on a tellement fait des téléologismes qu'on cherche maintenant des chemins pour s'évader, sans en être certain que ça se ne reproduise. Alors, dans le cadre de la Révolution française, le résultat était le point de départ. Les résultats étaient bons. Alors, c'était plus ou moins acquis. L'histoire rétrospective visait à réifier ce résultat positif ou bien à le diaboliser. Alors ça, c'était pendant très longtemps ce qui s'est passé. Et puis, du coup, tout un terrain historiographique a commencé à être en porte-à-faux sur ses habitudes, et essayer d'imaginer quelque chose, une façon différente d'affronter cet événement. Cela dit, ce que je trouve inéliminable, c'est cette sorte de magnétisme du résultat. Nous tous sommes poussés, que l'on veut ou que l'on ne veut pas, vers ce... On est magnétisé par le résultat. Donc le téléologisme est presque une tentation naturelle de l'historien. Surtout, je pense, pour un élément, que la crise, au fond, on ne vit pas très bien dans la crise. Les gens n'aiment pas vivre dans la crise. Je me suis toujours interrogé de ça. Sauf quelques talents, quelques virtuoses, ça se dit virtuose en français, virtuoses de la crise, ceux qui nagent parfaitement bien, mais c'est des cas très restreints. Les gens veulent se poser, veulent sortir, c'est insupportable en quelque sorte la crise, on veut se poser. Et pour l'historien, même pour l'historien, ça se pose problème. L'historien a surtout envie de voir à la fin. Et il se trouve lui aussi dans une situation d'instabilité lorsqu'il analyse la crise. Voilà pourquoi il y a tout un terrain, comme l'antidote que j'ai. Je me suis posé toujours la question de ne pas être absorbé par le résultat. C'est justement rentrer en sympathie avec un monde tâtonnant. Un monde qui tâtonne, un monde qui ne sait pas l'issue et qui ne se culpabilise pas pour autant et qui vit même l'angoisse de tâtonner, donc qui accepte la déstructuration. De ce point de vue, j'en ai parlé ce matin, l'anthropologie politique donne un coup de main, en quelque sorte, pour éviter le téléologisme, du fait qu'on valorise des sources fragmentaires et non pas forcément achevées. Donc l'intérêt au fragment, l'intérêt au microscopique, même au microscopique déstructuré, qui ne manque pas de valeur pour autant. Donc l'acceptation de sources apparemment hostiles, apparemment muettes, qu'on peut faire parler grâce à cette attitude d'acceptation du fragment. Ou bien il y a l'attention à ce qui se passe in fieri, c'est-à-dire ce que c'est becoming, Donc je pense aux travaux de Tim qui ont été très éclairants. Du coup, on peut parler de becoming, de quelque chose qui est in theory, et donc quelque chose qui résiste à arriver au résultat, résiste à ce magnétisme dans l'attention à la formation, la génétique, la genèse, et puis le changement de shell, j'en ai déjà parlé en revenant au micro, à la dimension microscopique. Il y a une autre chose que je voudrais dire. La crise, en quelque sorte, pose des problèmes parce que change les catégories de lecture des événements. Les gens perdent confiance en eux-mêmes dans la capacité de comprendre ce qui se passe. C'est ça un aspect de la crise qui fait dû au fait que des anciennes catégories, des anciennes mentalités s'effacent et il n'y a pas encore de nouvelles, d'où l'incertitude. Je voulais conclure sur cet aspect, sur un cas qui me semble frappant et que j'ai cité encore hier en séminaire, c'est-à-dire l'histoire du libraire Hardy. Les chercheurs, les spécialistes d'Ancien Régime connaissent cette source magnifique. C'est un journal qui dure une vingtaine d'années, peut-être, oui, écrit par un manuscrit avec des infolios énormes qui sont à la Bibliothèque nationale, une source magnifique d'un libraire qui prend note de ce qui se passe sous ses yeux et qui connaît parfaitement la réalité de l'Ancien Régime. Il devient un écrivain compulsif parce qu'il ne publie pas ça. Soudainement, le bouquin, ce journal, s'arrête après les journées d'octobre 89. Donc après l'insurrection la plus traumatique de 89. Et ça reste un mystère, parce que c'est quelqu'un qui écrit compulsivement et qui a une très bonne connaissance des catégories de fonctionnement de la société d'Ancien Régime. Alors, je veux terminer par la fin de l'introduction de l'édition critique de ce tome faite par Daniel Roche et Pascal Bastien, comme quoi ils s'interrogent. Mais pourquoi le libraire Hardy, au bout de 20 ans d'écriture, s'arrête? Ils ne donnent pas la réponse. Ils disent « ce ne serait pas la fin de l'histoire ». Évidemment, oui, pour Hardy, c'est la fin de l'histoire. C'est le début des incertitudes.
La question est tout à fait pertinente. La question est tout à fait bien vue parce que il me semble que la tentation de lire l'événement ou de lire les processus à la lumière de leur dénouement, elle est constante, elle est toujours là. Et en fait, elle est toujours là, je dirais, parce que structurellement, c'est notre temporalité. On vient après coup. Donc, d'une certaine façon, on ne peut prendre connaissance de l'événement en tant qu'événement qu'après coup. Donc, d'un strict point de vue, en quelque sorte, c'est inscrit dans notre constitution anthropologique. Et les savants sont anthropologiquement faits de la même façon. Donc, la prise de connaissance empirique des objets, elle est nécessairement rétrospective. À partir du moment où elle est nécessairement rétrospective, l'investigation de l'objet doit toujours se confronter au risque de lire l'objet à partir du stade final, à partir du dénouement. Donc, oui, le risque est constant. Maintenant, et c'est de fait, dans nombre de comptes rendus d'événements, de révolutions, de crises, ce risque est de toute façon informe l'analyse. La question est véritablement de savoir comment neutraliser le risque, comment le subvertir en quelque sorte. J'ai deux réponses à cette question-là. Je pense que si de fait on veut éviter une lecture rétrospective de l'événement, il faut nécessairement renverser le point de vue de façon systématique. Lorsque l'on s'efforce d'explorer l'événement en tant qu'objet, c'est-à-dire au lieu de partir du dénouement, investir l'événement, l'explorer de façon systématique, d'un point de vue prospectif, c'est-à-dire très concrètement, suivre les processus, tel qu'il s'élabore dans leur propre temporalité. C'est exactement ce que Tim, Haïm et Bill font. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité, mais qui est mise à nu, qui est décrite dans leur temporalité propre. Et c'est à partir du moment où cette temporalité propre est mise à nu que des phénomènes d'émergence, des phénomènes de déplacement, des phénomènes de transfert, des phénomènes d'innovation ou des phénomènes de répétition sont véritablement identifiés. Donc là, le conseil méthodologique, c'est le faire de façon systématique et afin de se déprendre soi-même d'un point de vue rétrospectif, faire attention, analyser les traces laissées par les acteurs eux-mêmes, les contemporains, ou dans le passé, dans un passé immédiat, parce que ces traces, en quelque sorte, restituent une expérience dans son caractère primaire, dans son caractère brut de décoffrage, en quelque sorte. Tout en, comme je l'ai dit ce matin, multipliant les points, les angles de vue. Parce qu'en fait, les angles de vue temporels éclairent différents aspects. C'est-à-dire ne pas non plus négliger des sources qui sont produites pas sur le moment même, mais qui sont produites avec un temps de décalage. Et donc, ils vont reproduire des émotions, des états subjectifs, mais qui vont les reproduire avec un souci de la séquence, un souci de la narration. Et le souci de la narration est très important pour nous, historiens, parce qu'en fait, il produit des détails factuels qui sont décisifs si l'on veut tester certaines hypothèses explicatives. Donc là, le conseil méthodologique, c'est s'adonner de façon systématique et sérieuse aux sources primaires, telles qu'elles sont produites par les acteurs, parce que ce sont ces sources primaires qui permettent de reconstruire la temporalité. Donc ça, c'est le premier conseil méthodologique. Le deuxième conseil méthodologique, pour ceux d'entre nous qui s'intéressent à des concepts explicatifs qui sont transversaux, qui peuvent être transposés d'un cas à l'autre. Là, le conseil, c'est utiliser des concepts ou forger des concepts qui sont des concepts dont on peut suivre la trace empirique et ne pas utiliser des concepts qui, en quelque sorte, se donnent le beau rôle d'une visée explicative qui, d'une certaine façon, n'a jamais de traduction empirique et dont ils sont, en fait, des concepts soit fuyants, soit transposables, mais à volonté. Ce qui est le typique des concepts flous, dont les sciences sociales abondent. Les concepts flous, on est submergé, en fait, de concepts flous. Et les concepts flous sont très utiles, en fait, pour des gens qui ne veulent pas véritablement s'exposer au travail empirique, parce que ça permet de court-circuiter le travail empirique. Une fois qu'on a appliqué le concept, on n'a plus besoin véritablement de faire de travail empirique. Donc, suggestion méthodologique, c'est si de fait on utilise des hypothèses explicatives ou des concepts descriptifs qui ont à visée explicative, il faut des concepts qui puissent avoir une traduction empirique. C'est-à-dire il faut pouvoir utiliser des concepts pour lesquels on définit les indicateurs empiriques qui rendront compte de la validité du concept. Je m'arrête là.
Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit en pensant à un auditeur qui vous entendrait et qui travaillait sur d'autres crises, les crises du XXe siècle, les révolutions du XIXe siècle. C'est la question de la connexion qu'on peut faire entre les domaines d'études. Parce que tous vous montrez, en partant des acteurs, la complexité des crises dont on parle. On parle de mouvements imprévisibles, de situations extrêmement incertaines. Alors la question, c'est depuis cette complexité auquel nous donne accès cette documentation, est-ce qu'on peut tirer des questions générales qui seraient utiles pour documenter ou réfléchir sur d'autres crises? Autrement dit, est-ce qu'on peut mettre en connexion des crises politiques ou révolutionnaires pour essayer éventuellement de dégager des éléments communs ou des questions communes? Ou est-ce qu'à chaque fois, on ne parle que de la crise singulière dont on traite et on ne peut donc en sortir? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment on peut faire avec ce problème-là?
c'est toujours l'intérêt d'un travail historique en profondeur de pouvoir fournir des éléments de lecture pour d'autres cas. Le problème qui se pose, c'est à quelles conditions ces transferts d'analyse sont-ils possibles? Donc, je pense qu'en fait, tout parallèle énoncé à un niveau relativement global entre les cas ne peut servir que de guide heuristique, donc d'hypothèse pour s'orienter en quelque sorte. Toutefois, tous ces parallèles un peu comparatistes ne valent qu'en tant qu'étape préliminaire. S'il s'agit véritablement d'identifier, de mettre à nu des éléments qui sont véritablement explicatifs, qui révèlent véritablement des logiques d'action, il importe que ces logiques d'action, je reprends le terme que j'ai utilisé ce matin, mais il importe que ces logiques d'action soient typifiées en tant que telles. C'est-à-dire qu'il importe qu'on puisse mettre à nu des processus types dont la logique est identifiable, dont la logique puisse être formalisée. Et j'utilise le terme de formalisation dans un sens global, la formalisation au sens de simplification. Donc, on a un cas, on s'immerge dans le cas, on l'étudie en détail, et précisément parce qu'on l'étudie en profondeur, on est capable de mettre à nu des processus, des logiques d'action collectives ou individuelles qu'il est possible d'abstraire et via cette abstraction, ces logiques d'action sont ensuite applicables à d'autres cas. Donc la condition de transfert analytique, à mon avis, repose sur ce travail d'abstraction. Toutefois, le travail d'abstraction en tant que tel n'est véritablement fructueux que si on a fait tout le travail de connaissance en profondeur des cas.
Again, I'll speak in English. I'm thinking of the case of Chaim Bustin's book and this notion of protagonism, which I believe he made up. It's a new word. Derived from a word that we all know, protagonist, but protagonisme is something somewhat different. Once one has read the book and seen the way that Bustin defines the problematic of protagonisme, one then sees that in whatever revolutionary event, at least, but not only big revolutions, even little revolutions. I got interested in studying revolutions because I was a student at the University of California, Berkeley, in the early 1960s, and was very much caught up in what was known as the free speech movement. It was a tempest in a teapot, as we say in English, a tempête dans un théière, not a world-shattering event. But nevertheless, one can see many of the same processes in that very small event. So we get the emergence of people who became leaders who were not known to other people. Some of them, the most famous leader of the free speech movement is a man named Mario Savio. He had a speech defect. He stuttered, and he had difficulty speaking in class, but the free speech movement freed his speech, and he became an extraordinary orator. So there was something that called him and a number of other people forward from who knows where. So this seems to me something that the concept of protagonisme could very well help
us to understand. And I think it's true. It's true of again. I've worked on the revolution of 1848 in Marseille, and again, people emerge whom nobody knew anything about particularly, who then become spokesmen of some sort, or who become well-known figures who appear in the clubs, lead marches, and so on. This is so. This is something that seems. Or look at the Arab Spring. At any revolutionary or quasi-revolutionary event, we now have a concept developed on the basis of deep study of a particular case that we can use, not indiscriminately, and we have to use it critically. But nevertheless, it makes clear and gives a name to a phenomenon that we all know actually happens in crises of many kinds. Steve, it's up to you.
Donc, il pense tout de suite au livre de Daim Bernstein. Et le mot, le néologisme, il quoi qui est le protagonisme. Ce nouveau mot qui vient d'un mot qu'on connaît très bien, mais qu'il utilise différemment. Alors, on voit très bien, une fois qu'on a lu ce livre, comment Bernstein définit la problématique du protagonisme. Et on voit très bien que ça ne pourrait pas être en n'importe quel événement révolutionnaire. Il prend l'exemple du fait qu'il a commencé à s'intéresser à la question des révolutions quand il était étudiant à Berkeley dans les années 60, 1960, et il s'intéressait au mouvement de free speech, et qui était en quelque sorte, il dit, un petit mouvement, une tempête dans une théière, qui n'était pas d'une envergure énorme. Mais on voit très bien dans ce petit processus, dans ce petit événement, qu'il y avait des leaders qui sortaient, et parle en particulier d'un des chefs le plus important de ce petit mouvement, Mario Savio, qui était sans doute un des leaders le plus improbable. Il bégayait, il avait beaucoup de mal à parler. Et tout d'un coup, dans ce mouvement pour le free speech, il est surgi un peu de nulle part et devenu quelqu'un de très important. Donc le concept de protagonisme peut nous aider à comprendre toutes sortes d'événements. Il a travaillé aussi, il a travaillé aussi sur, par exemple, 1848 à Marseille. Et là aussi, il y avait des personnes que personne ne connaissait, personne n'avait pas un rôle important, mais qui tout d'un coup vont surgir dans les défilés, dans les clubs, etc. Où on peut voir la même chose dans le printemps arabe, où n'importe quel révolutionnaire, ou même événement quasi-révolutionnaire. Donc, la clé, c'est que maintenant, on a une étude très approfondie qu'on peut utiliser de manière critique, bien sûr. Ce n'est pas une question d'adopter tous les aspects, mais qui permet de clarifier et donner un nom à des choses qui se passent et qu'on voit très clairement.
Pour répondre à la question que vous nous posez, est-ce que il y a une façon d'appliquer des notions qui ressortent de la Révolution française à d'autres crises? Si on répond non, on a l'air de ne pas être à la hauteur. Si on répond oui, on risque de se casser la figure. C'est un peu ça ma réponse. Parce qu'en fait, ça remonte à un problème de pratique historienne et de statut déontologique, en quelque sorte. Les études comparatistes, ça se dit en français, la comparatistique, si on peut... Ça se dit pas, mais ça se dit... c'est pas encore un néologisme, rassurez-vous. Mais c'est autre chose, je crois. C'est une discipline en soi. Pourquoi je dis ça? Non pas pour mépris ou admiration, mais c'est vraiment un autre exercice. Parce que si vous faites un travail de comparatiste, ou très pour solliciter heuristiquement la méthode comparative, vous défiez l'anachronisme. Et il faut le faire. Il faudrait écrire un jour un bouquin « Droit à l'anachronisme », en fait, que chez nous, dans la pratique historienne, est un péché capital. droit à la paresse, mais droit à l'anachronisme. Mais qui va faire ça? C'est quelqu'un qui a le talent d'affronter une discipline qui exige une attitude beaucoup plus désinvolte, justement parce que sollicite des critères herméneutiques qui sont très à la limite dans le statut épistémologique de l'historien historisant tel que je suis, avec tous les défauts que cela comporte. En revenant, cela ne veut pas correspondre à un aveu de refus de donner des indications à d'autres critères. Tout au contraire. Alors, la logique d'action, comme on disait tout à l'heure, l'étude d'une dynamique révolutionnaire, la tension la construction d'une dynamique, certains relais qui fonctionnent dans la dynamique révolutionnaire qu'on peut mettre en exergue et qui peuvent être adoptés dans n'importe quelle révolution ou adoptés par des collègues qui travaillent sur d'autres secteurs dans d'autres situations, ou bien la chimie d'une révolution qui est encore autre chose. C'est-à-dire un effort de comprendre le fonctionnement interne, quitte à laisser la responsabilité de l'application à quelqu'un qui connaît mieux le terrain. Pour ce qui est du protagonisme, j'étais toujours très frappé quand je m'en suis servi la première fois début des années 80. De vérifier une grande résistance en France à ce concept. Et je me dis, c'est vrai, c'est un néologisme, mais c'est très intuitif, la signification de ce terme. J'avais cru faire la découverte de l'eau chaude, comme on dit en italien. C'est-à-dire, rien de couvert d'essentiel, le protagonisme, on se met en vedette. Mais puis, petit à petit, j'ai élaboré cette notion et toujours un peu encouragé par cette incompréhension. Or, évidemment, c'est pas une prérogative de la Révolution française, celle de connaître des individus qui se marquaient par une attitude de protagonisme. Le plaisir du témoignage, la valeur ajoutée que chacun d'entre nous gagne en se démontrant témoin de quelque chose est quelque chose vraiment de très transversal. Le problème est de comprendre à ce moment-là s'il y a des événements qui facilitent la production de ça, cette attitude. Et effectivement, je crois, en partant de là, avoir avancé un peu dans la réflexion sur ce concept qui ne s'arrête pas là, finalement, et qui est effectivement employable par n'importe qui, sur n'importe quelle période. Le problème est qui s'en prend la responsabilité. Alors nous, les historiens de la Révolution française, pouvons travailler des concepts et les mettre sur un plateau, comme on met des petits fours, et puis c'est à quelqu'un d'autre de se servir, quoi.
Seulement, comme préface, je signale que moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux révolutions dans les années 1960, mais non pas parce que j'étais à Berkeley, mais parce que j'étais en France. J'ai passé toutes les années de 68, d'abord à Poitiers, et puis rapidement, j'ai fait du stop pour venir à Paris. Quant à la question sur la comparaison des révolutions ou des crises politiques, j'aimerais signaler qu'il y a toute une longue histoire de ces histoires. Je ne sais pas lequel était le premier à écrire comparaison entre révolutions, mais déjà Crane Brinton dans les années 30, et puis toute une série de personnes a fait des comparaisons. On pense à Chalmers Johnson, Charles Tilly, Theda Scotchpole, Arnold Mayer. Ils ont tous écrit des choses fort intéressantes. Je note pourtant que je crois que dans chaque cas, il commençait comme expert, comme spécialiste d'une révolution. Donc pour Chalmers Johnson, c'était la Chine, pour Brinton, c'était la France, pour Arnold Mayer, c'était la Russie, peut-être pour Tilly aussi, la France. Et puis, ils ont commencé avec une révolution et ils ont essayé de comparer les autres avec leur révolution. Et c'est très, très difficile. J'y ai pensé pendant un certain moment, mais j'estimais que de vraiment se mettre dans la culture, dans la vie, dans la politique d'une autre civilisation, de notre pays, de notre temps, c'est vraiment difficile. Ceci dit, je crois que oui, on peut essayer. Et je suis d'accord avec ce que Yvan a dit tout à l'heure, que d'un point de vue heuristique, ça peut être très, très utile. Pour moi, j'en ai fait ou j'ai lu sur d'autres révolutions, mais c'était surtout pour avoir d'autres idées, pour d'autres façons à voir ma révolution. Et puis, enfin, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a une très grande différence entre la Révolution française de 89 et les révolutions du 19e et du 20e siècle. Et c'est que la Révolution française était la première. Et en fait, il n'avait vraiment pas de paradigme. Comme Bill a dit tout à l'heure, c'est eux qui ont découvert ou qui ont inventé le mot révolution dans le sens moderne. Mais toutes les autres révolutions ont regardé en arrière, c'est sûr. Ils ont bien lu. Les révolutionnaires de 1848 en France, les révolutionnaires en Russie, les révolutionnaires en Chine connaissaient très très bien la Révolution française. Ils employaient les mêmes termes, Thermidor, Brumaire, gauche, droite, etc., qui ont été créés dans la Révolution française. Donc, il y a cette grande différence. Mais ceci dit, oui, je suis tout à fait pour les comparaisons, mais c'est vraiment difficile.
Peut-être une dernière question qui est un petit peu, j'espère que j'ai réussi à la formuler, un petit peu à tiroir. C'est autour de la question de la légitimité. Il me semble que l'un des intérêts de la notion de protagonisme, c'est comme ça que je l'ai lu avec un regard de quelqu'un qui fait de la science politique, c'est qu'elle permet d'articuler le bas et le haut, pour le dire avec des catégories très mauvaises évidemment, mais disons, la participation populaire et les activités des autorités politiques dans la fabrique de la légitimité politique d'un régime à l'état naissant. C'est-à-dire que ce que vous montrez, c'est que les autorités politiques ont à gérer le protagonisme. Soit la gestion est très libérale et incontrôlée, et là, c'est ambivalent parce que ça peut susciter du protagonisme et donc de l'attachement au régime, mais en même temps, c'est incontrôlé, avec des risques de radicalisation. Ou bien la gestion est malthusienne ou stricte, où on ne récompense que quelques actes de protagonisme ou d'héroïsme ou de mérite patriotique, mais alors on fabrique un peu moins de consensus parce qu'on associe moins de gens à la fabrique du nouveau régime. Donc moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans cette notion-là. Et donc, j'avais une première question, c'était dans vos analyses des révolutions que vous avez étudiées, est-ce que la notion de légitimité politique est un outil dont vous vous servez? Et si c'est le cas, de quelle manière? L'autre chose, c'est que dans cette gestion du protagonisme par les autorités politiques, il y a le réemploi de formes dont l'objet est nouveau, mais de formes qui ne sont pas nouvelles. Attribuer une médaille, du patriotisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de l'attribuer pour le patriotisme. Mais que le pouvoir attribue une médaille à des individus n'est pas une chose nouvelle. C'est un tout petit exemple pour poser la question plus large du réinvestissement de formes déjà existantes, de répertoires déjà existants dans la fabrique de la légitimité politique par un régime. Là, on a, dans la Révolution française, un régime politique nouveau et radicalement nouveau. Néanmoins, on voit qu'il peut s'appuyer sur des technologies institutionnelles de fabrique de la légitimité qui, elles, ne sont pas nécessairement nouvelles. Voilà, c'était cette double question que je voulais vous poser. Tout le monde n'est pas obligé de répondre si cette question n'est pas pertinente pour tout le monde.
J'essaierai de faire bref parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Effectivement, je suis en élaborant cette notion de protagonisme. J'étais toujours très attentif à signaler que c'est intéressant du moment où le protagonisme dialogue avec le pouvoir. Parce que sinon, ce serait, on le disait ce matin même, ça retombe dans le domaine de la psychologie sociale, ce qui est très intéressant, mais c'est pas notre sujet, finalement. Alors, le dialogue de cette nouvelle forme de participation avec les autorités révolutionnaires. Donc, d'un côté, il y a une demande d'en bas que le protagonisme, donc le geste, le patriotisme, l'adhésion soient reconnu officiellement par le pouvoir en quelque chose en quelque sorte homologué pour que l'acte de protagonisme s'inscrive à part entière dans le parcours historique qu'on vit. Et d'autre part, il y a le problème d'en haut de quoi faire de cette nouvelle attitude qui éclate et qui rentre dans l'inventaire de formes spontanées de participation qu'on ne peut pas décourager, qu'on ne peut pas frustrer, qui alimente la démarche révolutionnaire, mais qui en même temps pose problème parce que tendent à créer un système de révolution interminable, de protagonisme interminable, de radicalisation implicite dans le geste qui prétend enlever à la vie sociale toute normalité. Donc le problème de la normalisation. Ça pose problème. Alors, ce qui est intéressant de ce point de vue, et vraiment serait un sujet énorme à traiter, c'est pas simplement la légitimité octroyée au geste de protagonisme, ce qui est intéressant, parce que le geste de protagoniste d'un protagoniste peut être tout à fait illégal, donc illégitime, par la reconnaissance d'en haut octroyée sur la base des critères politiques, on peut gommer des procédures judiciaires et rendre d'une façon magique légale ce qui est tout à fait illégal. Donc c'est une intervention de la politique sur le geste protagoniste. Vous voyez que donc c'est pas une question simplement de psychologie, d'attitude, etc. La légitimité rentre à plein titre parce que il y a une nouvelle légitimité à chaud qui n'a rien à voir avec le code et dans les époques de transition extrêmement intéressant avant que une nouvelle législation consolidée contribue à baliser le domaine du licite. Dans cette transition, ce qui m'a énormément frappé dans mes études, c'est la sensibilité hégémonique du pouvoir révolutionnaire, qui comprend tout de suite qu'un certain nombre d'actions, un certain type de comportement qui pouvait sembler naïf et hors du coup, sont non seulement acceptés mais sollicités dans le cadre d'une politique hégémonique et d'un élargissement du consensus. De ce point de vue, le protagonisme m'intéresse beaucoup plus. Je vous fais un exemple. C'est pas seulement les médailles, c'est le défi. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le défilé qui occupe des longues journées de travaux parlementaires de l'Assemblée nationale en temps de crise, c'est-à-dire quand il y a plein de choses à discuter, des grands débats législatifs, des grands débats politiques, cela n'empêche que la société populaire de tel patelin de la France qui se présente à l'Assemblée nationale pour exprimer sa solidarité ou un don civique de quelques sous, reçoit toute l'attention nécessaire. Alors ça, c'est apparemment incongru par rapport aux tâches des législateurs, mais si on mesure cela à l'aune d'une volonté hégémonique, on comprend que ce que les dirigeants révolutionnaires ont bien compris, que avec ce genre de détention, il faut faire avec, si on veut encourager un processus qui est en cours et trouver des énergies nouvelles, un carburant nouveau. Un autre problème, ce sera, comme Boris l'a bien dit, le problème de contenir cela, mais ça, c'est une autre grosse question.
Bon, je vais essayer d'offrir quelques réflexions sur cette question. Je crois que peut-être on n'a pas toujours assez insisté sur le terrible vide du pouvoir en France au début de la Révolution. Et peut-être au début de beaucoup de révolutions, peut-être c'est, on trouve ce même aspect dans d'autres cas. Et c'était un vide du pouvoir à la fois administratif et psychologique, me semble-t-il. Administratif parce que très vite, à peu près toute la bureaucratie, l'administration de l'Ancien Régime, de la monarchie bourbonne s'est écroulée, tombée presque en ruine. Parfois, les intendants, par exemple, ils voyaient très bien ce qui est arrivé à l'intendant de Paris. Il a été massacré le 20 juillet, je crois, dans la place de Grève. Et il y avait pas mal d'intendants qui, après tout, c'était le clé de voûte de la bureaucratie de l'administration royale sous l'Ancien Régime. Beaucoup de ces intendants ont fiché le camp, ont disparu. D'autres sont restés, mais c'était clair qu'ils n'avaient plus beaucoup de pouvoir. Et pas seulement les intendants, mais les commissaires de police, les magistrats, à peu près tout le monde se faisait petit ou partait tout à fait. Et dans la deuxième moitié, déjà dans la deuxième moitié de 1789, il ne restait à peu près que des municipalités de l'Ancien Régime qui restaient. Donc il y avait un grand problème. Comment gérer la France dans une telle situation? Mais c'était un vide de pouvoir aussi au niveau psychologique, si on veut. Et là, c'est ce problème, cette observation de Haim sur le protagonisme, sur le fait que maintenant tout le monde commençait à découvrir la liberté. Mais où sont les limites? Où sont les bornes de cette liberté? Et Mirabeau a très bien posé la question déjà en juillet, je crois juillet 89, après qu'on a effacé toutes les anciennes bornes, il faut un certain temps pour créer de nouvelles limites, il a dit. Et c'est sûr. Et les ouvriers dans les ateliers à Paris, les soldats dans les soldats et marines et marins dans le militaire, les paysans, les esclaves outre-Atlantique, et même les femmes commençaient à poser cette question et de remettre en question toutes les anciennes structures de l'hiérarchie sociale et familiale. c'était très difficile. Hein. C'était vraiment une crise de légitimité, si on veut, pas seulement au niveau politique, mais au niveau social. Bien sûr, la révolution, les révolutionnaires ont essayé rapidement de remettre, de créer un nouvel système. Ils savaient très bien que c'était un grand problème. Et ils essayaient ils ont créé cette nouvelle hiérarchie de départements, districts, cantons, municipalités. Mais ce n'était pas du tout facile au début parce que à chaque niveau, il y avait aussi du protagonisme, si on veut. À chaque niveau, les gens commençaient à se demander mais s'ils recevaient des ordres d'en haut, ils se demandent est-ce qu'ils devaient vraiment mettre en vigueur ces lois s'ils n'étaient pas d'accord. C'était la souveraineté populaire, après tout, non? Donc, c'était très difficile à implémenter les lois révolutionnaires, certaines lois révolutionnaires, notamment sur la religion, par exemple. Donc, c'est vrai, je ne sais pas si c'est exactement ça la question que vous posez, mais c'est sûr qu'il y avait une crise dramatique de légitimité au début de la révolution, et n'est-ce pas peut-être au début de toutes les grandes révolutions.
I'm going to speak about the use of older forms from the old regime. One in particular, l'entrée royale, when the king comes to the city and there's a procession. This happened very early in the revolution. That is, it was, I forget whether it was either the 16th or the 17th of July, after the Prise de la Bastille.
17th, I think.
The 17th?
I think
yeah.
So, yeah.
The king had basically had decided to recognize the validity of the Prise de la Bastille, the establishment of a new municipality in Paris, and effectively the validity of what had happened. So how was this handled? Well, part of the way it was handled is that there was an entrée royale. The king came to the gate of Paris. There he was given the key to the city, and then there was a procession to the city hall, lined with thousands of people, and all of the descriptions say there was not a dry eye. Everyone was weeping with joy. Perfect order. Everyone was certainly the king and the members of the Assemblée Nationale were still worried that there was going to be continuing disorder in Paris. Yet what they found was that there was perfect order. Part of the reason there was perfect order was that there was an established form that could be followed. The king went to all the way to the city hall, went up to the balcony of the city hall, had put the tricolore on his hat, and everyone shouted "Vive le roi!" So this was a means of essentially, the king recognizing a revolution, yet it was carried out in the form of a royal procession, obviously with some changes, but nevertheless, it was basically a royal procession. So I think it's this is a nice example of using forms from the old regime in order to reinforce the legitimacy of this new regime that's barely coming into existence.
Je peux ajouter un mot?
Oui.
Oui, ça serait intéressant de comparer l'entrée de Louis XVI à Paris le 17 oui. juillet, avec son entrée à Paris le 26 juin 1791. Et donc il revient de Varennes, n'est-ce pas? Non, mais à ce moment-là, je crois qu'on suivait à peu près les mêmes règles ou les mêmes coutumes, mais à l'envers.
Oui.
Parce qu'on gardait le chapeau sur la tête. Et avec les soldats, avec les fusils, ils mettaient les fusils oui. à l'envers aussi, n'est-ce pas? Oui. Ils faisaient. Mais c'était l'ancienne structure, oui. si tu veux.
Mais avec des signes.
Avec des signes de.
Oui.
qui n'aimaient pas ça, oui. qui n'aimaient plus le roi. Ou,
oui.
Voilà.
Et pour bonne raison.
Excusez-moi. Juste résumer rapidement. Donc, il voulait répondre surtout à la question de comment l'usage des formes anciennes dans un nouveau contexte, et donc les formes de l'Ancien Régime, et là en particulier l'entrée royale, quand le roi entre dans une ville, dans ce cas à Paris, et puis il y a une procession, etc., un défilé, etc. Et bien sûr, ça s'est passé très rapidement après la prise de la Bastille, le 17 juillet. De 89, et le roi, il arrive, il reconnaît la validité de la prise de la Bastille, l'établissement de la nouvelle municipalité. Globalement, il reconnaît le processus qui est en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que la manière de faire cette reconnaissance, de reconnaître ce processus, c'est pas une entrée royale, justement. On va lui donner la clé de la ville. Il va avoir la procession avec les personnes de chaque côté, des milliers de personnes, et tous les descriptifs, ils expliquent que tout le monde est un peu en larmes. Il y a un ordre qui règne, et le roi et les membres de l'Assemblée nationale étaient justement très inquiets de cette question du désordre, mais il n'y en a pas, et c'est en particulier, bien sûr, parce qu'ils sont en train d'utiliser une forme qui est déjà établie. Donc il entre, il met la tricolore, il y a des cris de vive le roi, bien sûr. Et donc on a là une reconnaissance d'un processus révolutionnaire, du début d'une révolution, qui d'ailleurs, le mot est en train de prendre forme à ce moment-là, d'après Sewall. Mais c'est à travers cette forme de procession royale. Et donc, on peut utiliser les anciennes formes, les formes de l'Ancien Régime, pour renforcer la légitimité de ce qui va se passer après.
Je vais répondre à la question posée par Boris en prenant pour point de départ une définition de la légitimité. Donc, puisque, en fait, il s'agit de savoir si le protagonisme peut aider à comprendre et analyser la légitimité, autant être sûr qu'on parle de la même chose, donc autant s'accorder sur une définition de la légitimité. Par légitimité, il faut entendre, je pense, du moins c'est mon concept opératoire, il faut entendre le fait pour un groupe d'accorder à un acteur, que cet acteur soit individuel ou collectif. Hein, donc l'acteur, c'est un acteur individuel, c'est le roi, un acteur collectif, c'est une institution, par exemple. Donc par légitimité, on entend le fait d'accorder d'accorder à un acteur, individuel ou collectif, le droit de demander l'obéissance. Donc un acteur est légitime si, de fait, pour moi, comme membre d'un groupe, un acteur politique est légitime si, de fait, j'accorde à cet acteur politique le droit qu'il puisse me demander l'obéissance. Donc la légitimité nécessairement implique un consentement. Un consentement à un transfert de droit. Je transfère mon droit de contrôler ce que je fais, mon droit de contrôler ma propre action, je le transfère à un acteur individuel et collectif. Ce qui signifie que la légitimité, nécessairement, est un concept relationnel. C'est-à-dire la légitimité se construit dans une relation d'un groupe, puisqu'on ne peut parler de légitimité que pour un groupe, La légitimité se construit dans cette relation à un acteur politique. La seconde implication, c'est que, de fait, on parlera nécessairement d'un groupe transférant son droit de contrôle sur lui-même, son droit de contrôle sur sa propre action à cet acteur. L'idée de poser la question de la légitimité en situation de crise est tout à fait pertinente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les situations de crise sont précisément des situations où cette relation à l'acteur, à un acteur politique, devient problématique. Soit parce qu'on a une situation de vide de pouvoir, ce dont parlait Timothy Tuckett, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus d'institution en tant que telle. Il y a un vide de pouvoir. Là, il y a une désagrégation même du lieu de pouvoir. Donc, la question de à qui transférer le droit de contrôle sur soi n'a pas de récipiendaire possible. Donc ça, c'est un cas de figure, c'est un cas de scénario de désagrégation, de d'effondrement de la légitimité. Un autre cas de scénario est un cas de scénario où, en fait, on n'a pas un vide de pouvoir, mais on a une multiplicité de candidats à la légitimité. On a une situation, en fait, des acteurs sont en concurrence. Et précisément parce qu'ils sont en concurrence, ils essaient de capter ce qui serait un transfert de pouvoir. Exemple typique, canalise dans ces termes Haïn Bostin, le 9 Thermidor. Si vous lisez attentivement les pages consacrées au 9 Thermidor par Haïn Bostin, le 9 Thermidor est analysé comme une situation, en fait, où la légitimité devient en question parce qu'on a deux institutions qui sont en concurrence à ce moment-là. Deux institutions a priori souveraines, la commune, la convention. Donc on a deux scénarios types d'effondrement de la légitimité. Un vide des institutions, un vide de pouvoir, scénario évoqué par Timothy Tuckett, et une situation de concurrence. Donc la situation de crise est une situation expérimentale quasiment, parce que c'est une situation où il est permis d'observer le processus par lequel les membres d'un groupe, en quelque sorte, accordent ou transfèrent le droit de contrôler leur propre action à un acteur politique. Donc, pour répondre à la question, Boris suggérait de dire que, en fait, le protagonisme permet justement d'analyser ce processus de constitution de la légitimité. Pourquoi ? Parce que le protagonisme nécessairement implique cette relation entre le haut et le bas. Le parallèle avec le protagonisme est tout à fait bien vu, précisément parce qu'on est bien, on a affaire à un concept relationnel. C'est un processus proprement relationnel. Toutefois, je serais d'avis de dire que le protagonisme est une condition nécessaire de la constitution de la légitimité, mais nullement suffisante. Il se peut tout à fait que des prétendants à la légitimité s'engagent dans une manœuvre pour capter justement l'attention et le consentement. Mais ces tentatives échouent. La plupart du temps, on ne retient que les cas de réussite. Donc, en fait, ces cas négatifs, ces cas d'échec sont en quelque sorte absorbés par l'histoire et on les oublie. Mais les cas d'échec, de tentative de captation de transfert du droit sont multiples, surtout en situation de crise. Mais on les oublie. Donc, le protagonisme, la notion de protagonisme, à mon avis, est un point de départ, mais n'est nullement une condition suffisante de la construction de légitimité. Et ce que je suggère dans le bouquin, dans le livre publié en 2008, c'est en fait cette relation, ce processus relationnel doit être analysé au vu de la façon dont des groupes reçoivent et réagissent à des prises de position publiques de la part d'acteurs politiques. L'acteur politique qui va émerger comme l'acteur légitime est celui qui arrive à générer un consentement perçu comme quasi unanime. Donc, vous savez, c'est celui qui, via son intervention publique, qui est une forme de protagonisme, il se met en avant, il prend position publiquement. Via sa prise de position publique, va, en quelque sorte, générer une convergence des croyances et des représentations sur lui-même ou elle-même comme étant dépositaire de ce droit à contrôler les actions du groupe. Donc, si véritablement on veut mettre à nu ces processus de construction de la légitimité, il importe d'avoir des outils pour comprendre sous quelles conditions certaines prises de position publiques, de fait, sont efficaces pour capter ce droit. Et dans le livre de 2008, dans Ruling Oneself Out, j'avance certaines propositions sur les conditions d'effectivité de ces prises de position publiques. C'est des conditions qui se rapportent, d'une part, à l'état des croyances au moment où les prises de position publiques sont faites. Donc ça, c'est un argument sur la temporalité, sur la séquence même du processus. Mais c'est aussi un argument sur l'identité des protagonistes, sur leur statut. Donc d'une part, il faut que ce soit des gens visibles, parce qu'il faut que ce soit des acteurs qui soient reconnus par tous, d'une façon ou d'une autre. Et il faut, d'autre part, que ce soit des acteurs qui ne soient pas affiliés avec un sous-groupe particulier, des acteurs qui soient envisagés comme neutres d'un point de vue politique, ou du moins qui soient dont la prise de position précisément pourra être interprétée comme reflétant un état d'esprit émergent. Donc voilà des hypothèses qui sont testables, qui peuvent être mises en œuvre empiriquement, mais qui s'efforcent de mettre à nu le processus de construction de croyances et d'anticipation qui se rapporte à qui est en droit, en quelque sorte, d'exercer, qui est en droit de contrôler les acteurs, les actions d'un groupe. Pour vous donner un exemple qui peut sembler éloigné de la Révolution française, mais où ce type d'analyse s'avère tout à fait pertinent, la légitimité d'Hitler. Printemps 1933, Hitler est dans une situation où il reçoit les pleins pouvoirs constitutionnels de la part de partis qui étaient définis jusque-là comme étant des partis anti-nazis. Or, le vote des pleins pouvoirs à Hitler opère comme un énoncé public sur ce que va être l'attitude des catholiques, des socialistes, de ceux qui s'étaient jusque-là opposés à Hitler en tant que tel. Et cet énoncé public qu'est le vote, qui est un événement public, donc il peut être interprété publiquement par l'ensemble des électeurs allemands, opère comme, ou fonctionne comme un opérateur de légitimité. C'est-à-dire que Hitler, après mars 1933, lorsqu'il a reçu les pleins pouvoirs, bénéficie en quelque sorte d'un consensus plus ou moins unanime, plus ou moins informel, plus ou moins, mais tout à fait tacite, sur l'obéissance future des citoyens allemands au pouvoir nazi. Et cette anticipation d'une obéissance future génère du consentement. Et je crois qu'il est tout à fait légitime de dire que, d'un point de vue strictement empirique, Hitler bénéficie de la légitimité politique dans le courant d'une légitimité croissante dans le courant du printemps 1933, ce qui explique la facilité avec laquelle les nazis accaparent le pouvoir institutionnel en Allemagne, la facilité de la transition.
Merci beaucoup. Il nous reste à clore ce débat. Tout d'abord, on vous remercie à nouveau. Timothy Paquet, Anne Burstein, Ivan Armakov, William Soul, Steve Sawyer, Brice Gobi. On remercie également
Quentin de Vermos, quand
même. On remercie également le technicien pour la prise d'image. Merci beaucoup. Oui. On doit également adresser nos remerciements à la revue Politique, qui nous permet d'être là, et à l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et merci à vous deux pour l'avoir organisé. Merci. C'était beaucoup de travail. Merci.